crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs.
Quand on tire, on raconte pas sa vie.
Alors qu'est-ce qui se passe ici?
Cessez d'intervenir incessamment, un peu comme le roquet.
This is a revolution sure shot.
Why I walk and talk this way?
There's a war going on outside.
Say what?
Sur CFM.
Bonjour tout le monde, salut.
Salut.
Voilà une nouvelle émission et alors là depuis la je crois que c'est la première fois en deux ans que des mâles, ça sent la testostérone dans ce rock, dans cette émission des rockets.
Ça va être dur.
Ça fait long. Ah non, on va pouvoir se lâcher, ça y est quoi là. On est assis, les jambes écartées, on se gratte les couilles et voilà, on boit de la bière, on fume, ça c'est génial. Voilà. Alors avec nous aujourd'hui Romain, alors pour rappeler pour nos plus jeunes auditeurs qui est Romain, c'est le rocket qui est toujours en retard, qui ne dit pas quand il vient pas et qui renverse sa bière sur la table. Il l'a fait, oui, encore une fois.
Mais il dit pas qu'il vient non plus, hein, il y a des fois je viens, il y a plus personne.
Voilà, Romain, c'est le mais c'est des fois l'option avec de bonnes surprises parce qu'aujourd'hui tu nous as amené deux copains, enfin des copains que je connais aussi, qui ont le profil rocker rouge, hein, c'est nos stagiaires troisième de fin d'année. Voilà, donc bonjour Lucas,
bonjour
petit troisième,
ça va,
voilà,
pas mal.
Bien, et ouais, Edgar à côté.
Stagiaire aussi.
Ouais, bien, voilà. On va, c'est un peu, c'est moitié stage, moitié casting, hein. À propos, ouais. C'est vrai que, à la rentrée prochaine, bon, il y a plusieurs rockers qui vont partir vers de nouvelles aventures. Donc, effectivement, on caste, hein, aussi on recrute des nouveaux rockers. Parce que moi, j'aimerais bien continuer cette émission qui s'est implantée un peu dans le paysage ruthénois. Et ouais, ce serait intéressant de la continuer. Voilà, bon, on en discutera. Il nous reste, après celle-là, c'est la 102e émission. Il restera deux émissions, si j'ai bien calculé, pour cette saison-là. Et puis voilà, on va continuer à s'amuser.
Et donc maintenant on va écouter la chronique de Guillaume qui va nous parler des législatives.
Mais ça y est, on a réussi un lancement quoi. C'est la première fois que je suis lancé quoi. Hein, comme quoi, quand il y a des mecs, ça tourne bien.
J'ai essayé de lancer pas trop fort.
Ouais, c'était bien. Ouais. Alors aujourd'hui, nous allons parler quand même un petit peu des élections législatives. Nous sommes une émission politique et le premier tour, c'est ce week-end 11 juin. Alors je vais d'abord l'aborder d'un point de vue du militant de gauche que je suis. Hein. J'entends ici ou là beaucoup de mes camarades se lamenter. Comme quoi, eh ben, il n'y a pas encore d'unité à gauche, c'est vraiment désespérant. Oui, c'est désespérant. Si on regarde sur l'Aveyron, dans la première circonscription, vous avez quatre candidats dont les militants et les sympathisants se retrouvent ensemble dans les combats politiques et sociaux toute l'année, mais qui partent séparément à ces élections. Il s'agit de la France Insoumise, du PC, d'Europe Écologie Les Verts et de Lutte Ouvrière. Idem dans la deuxième circonscription, France Insoumise, Les Verts et Lutte Ouvrière, et la plus scandaleuse étant la troisième circonscription avec cinq candidats aux idées très proches, France Insoumise, PCF, Verts, Nouvelle Donne et l'eau et les décroissants. C'est un classement que je fais moi-même, on peut discuter de la proximité idéologique ou pas, bon c'est moi qui l'ai fait comme ça. Alors cette situation est due en partie à l'orgueil des uns et des autres. D'un côté vous avez la France Insoumise qui ne sent plus pisser parce que Mélenchon a fait 19% présidentiel, et dans un sens ils ont pas tort, hein. Le rapport de force c'est en leur faveur. Mais ça n'aide pas au consensus. De l'autre, vous avez le PCF qui, à mon avis, fait un déni de réalité. Il s'imagine toujours incontournable à gauche. J'ai l'impression que les militants du PCF vivent dans le souvenir de l'âge d'or de leur parti, et cela les empêche de voir les ruines qui les entourent. Ils se croient forts parce qu'ils sont capables de coller beaucoup d'affiches, mais ça suffit pas pour gagner une élection. Sinon, ce serait J.C. Decaux qui serait président de la République. Voilà. Bon, alors maintenant que j'ai tapé sur mes copains, je vais retourner ma veste et devenir leur avocat. En effet, le système électoral des législatives favorise à la fois la division et le reniement de ses idées politiques. Les législatives sont, avec les présidentielles, les élections les plus pourries et les plus antidémocratiques de la Ve République. Je m'explique. Nous avons affaire ici à, écoutez-moi bien, un scrutin uninominal, majoritaire, à deux tours, à dimension locale. Telle est la définition. Scrutin uninominal, majoritaire, à deux tours, à dimension locale. En langage courant, cela signifie que l'élection ne se déroule pas en scrutin par liste, comme la plupart des élections municipales, régionales, européennes, mais qu'on vote pour un duo de candidats titulaires suppléants. Ensuite, l'élection comporte deux tours, et pour arriver au second, les candidats doivent obtenir un score de 12,5% des inscrits. Hein ? On est d'accord là, hein ? Intervenez un petit peu, c'est mou là tout ça, là. Il n'y a pas de spontanéité là, pour l'instant, hein. Vous êtes nouveau, ça faut que je vous explique. Faut pas couper, mais c'est bien de...
Oui, mais on veut pas te contredire, on sait pas trop comment se passer.
Je suis pas d'accord avec le début
de la chronique, mais je dis rien.
D'accord, bon, donc je suis le mal dominant aujourd'hui, c'est bien. Donc, 12% et demi des inscrits sur les listes électorales. Donc, l'abstention est prise en compte. Si elle est de 50% au premier tour, les candidats doivent faire 25% pour se maintenir. Et enfin, le vote s'effectue par circonscription, c'est-à-dire dans chacune des 577 entités géographiques inventées pour les élections. Il y a donc 577 campagnes électorales à mener. Si bien que les opinions politiques qui représentent moins de 20% grosso modo des électeurs et qui ne sont pas implantées uniformément sur l'ensemble du territoire ne sont soit pas du tout ou beaucoup trop peu représentés au Parlement. Ce qui pousse les petits partis à signer des accords électoraux pendant la campagne présidentielle pour s'assurer des sièges au Parlement, mais en reniant une part plus ou moins importante de leur programme. C'est le cas classique d'Europe Écologie Les Verts et souvent du PCF qui abandonne l'idée soit de fermer des centrales nucléaires, soit de revenir à la retraite à 60 ans pour quelques sièges éventuels de députés. Mais il y a aussi un autre vice. Les législatives sont aussi les élections qui permettent le financement public des partis qui y participent. À partir du moment où un parti réalise 1% des voix dans au moins 50 circonscriptions, chaque voix va rapporter environ 1,70€ par an pendant 5 ans, auquel on peut ajouter des aides en fonction du nombre de députés ou de sénateurs. À titre d'exemple, en 2013, le PS empochait 28 millions d'euros, l'UMP 19 millions d'euros, le FN 5 millions d'euros, les Verts 3,5 millions et le PCF 3,2 millions d'euros. Donc pour les petits partis, c'est une source de financement public cruciale. Et c'est pour ça qu'on voit apparaître des candidats de groupes politiques inconnus, comme ici en Aveyron, le mouvement écologiste indépendant, vous connaissiez, l'UPR, ils n'ont pas de base militante, faut arrêter de déconner, ceux qui sont bien sûr des gens parachutés. Alors, ici, le parachutage, c'est pas un problème pour moi, puisque le découpage géographique est une vaste foutaise. Les députés se prononceront sur des questions d'ordre national. Donc, quand vous avez ici un Yves Sancy, candidat Les Républicains, qui promet d'être engagé pour l'Aveyron, c'est juste pour flatter le pécor chauvin du coin. Un député est engagé pour la France. Alors, on a critiqué Mélenchon d'être parti à Marseille, mais bon, Fillon était député de Paris tout en habitant dans la Sarthe, et tout le monde s'en foutait, et je m'en fous aussi. On a donc là une élection absurde qui favorise soit le reniement de ses idées, soit la division des forces politiques. Mais l'on pourrait arranger cette situation si une assemblée constituante réécrivait les règles du jeu électoral. Elle établirait une élection par scrutin de liste à un tour sur une seule circonscription qui serait la France. Il faudrait aussi que les citoyens puissent exercer pleinement leur pouvoir de contrôle des élus en intégrant le référendum révocatoire pour savoir si un élu peut rester dans ses fonctions ou doit démissionner. Le peuple aurait aussi un pouvoir plus régulier sur les institutions et les décisions politiques ne dépendraient pas des intérêts clientélistes de quelques centaines d'élus. Voilà. Parce que, voilà, telle est notre position. Je vois que vous hochez la tête, les garçons. Oui, ça fait plaisir. Bien. C'est bien.
Je suis juste un peu, dis-moi. Je me dis, je sais pas si c'est plus ou moins démocratique, les législatives, tu vois, que les européennes par scrutin de liste. Parce que par scrutin de liste, je veux dire, n'importe qui, n'importe quel parti peut faire élire une chèvre. Parce que tu peux faire élire un tabouret. Oh. Vu qu'il suffit de le mettre numéro 2 quand tu sais que tu vas avoir 2-3 places, un inconnu, tu peux parachuter des mecs très facilement grâce, d'ailleurs, c'est comme ça que beaucoup de partis font. Les européennes, et les régionales, les régions et l'Europe, ça sert justement des fois à mettre en orbite des mecs qui auraient jamais percé localement. Quoi.
Mais les chèvres n'ont-elles pas le droit non plus de siéger?
Tout à fait.
Surtout dans l'Aveyron, je veux dire. Enfin, chèvres ou brebis, hein, bien sûr. Quoi.
Voilà. Des vaches.
Ouais.
Et l'UPR, je ne suis pas d'accord non plus. Ils n'ont pas une grosse base militante, elle est petite, mais justement, c'est une vraie base militante. Parce qu'ils sont chauds, ils sont chauds comme la braise.
Après, ça dépend ce qu'on appelle militant. Il y a des gens qui ont une vision militante un peu traditionnelle, c'est des gens sur le terrain qui vont aller tracter sur des marchés ou quoi. L'UPR, c'est plus des militants, on va dire, derrière leur ordinateur, mais ils ont aussi un impact sur l'opinion, je pense.
Mais c'est surtout, vous avez par exemple un parti politique turc qui se présente aux élections en France pour essayer de récupérer des subsides publics. Vous avez, alors il y a un collectif d'associations, j'ai appris qu'il n'y en a pas ici en Aveyron, mais qui le disent cash. Nous on se présente pour avoir de la thune. C'est, on va essayer de faire, on est je sais plus, 50 associations, on se présente, on va essayer de faire 1% dans 50 circonscriptions et après on va se répartir le pactole pendant 5 ans, ça va nous permettre de fonctionner. Voilà. Ouais. C'est un peu, c'est le vice de ce système-là. Ouais. C'est aussi comment on fonctionne en tant que parti politique en France. Ça sous-entend plein de questions, mais ça vraiment, si là par exemple on a, et moi ce qui me fait, bon on en parlera tout à l'heure après, mais si le PC par exemple est candidat ici à Rodez, c'est pour ils vont pas, c'est pour financer les permanents, quoi. Voilà, c'est,
oui, complètement.
On est d'accord, ouais, super, on est d'accord, c'est bon. Allez, aujourd'hui j'ai fait la programmation musicale, et ben ce sera Beatles et disco, et là ce sera disco, et allez, on se met dans le ton avec Born to be Alive.
Born to be alive, born to be alive. You see, we're born
perroquet rouge. Il crie, il mord et il s'enfuit.
Eh oui, toi aussi tu dansais comme un con dans ta cuisine en sautant partout sur Born to Be Alive, c'est cool, maintenant tu te calmes un peu et tu nous écoutes. Et maintenant, eh ben alors on a dit qu'on était que entre mecs, mais on est des gars hyper cool.
On va faire un geste.
Katia, qui est quand même la meilleure élève des Rockets Rouges, ne pouvait pas venir aujourd'hui, mais elle nous a enregistré des chroniques. Et donc s'il vous plaît messieurs, on va écouter la chronique, donc pas de bruit de prouts, pas de blagues de cul, on écoute poliment et on en discute après. Katia, nous, je crois, nous parler de Macron. On
l'écoute. Alors, j'avais fait une petite chronique qui s'appelait « Le temps des surprises ». Et oui, l'heure, semble-t-il, est à la surprise. Que de surprises dans l'actualité. Waouh ! Tout le monde est sur le cul, tant de surprises. Pour le moins, cela semble surprendre. Alors, je me sens un peu décalée dans tout ça et je voulais vous en parler, amis auditeurs. Un peu comme on s'allonge sur le canapé de son psychanalyste. Parce que perso, ce qui me surprend, eh bien, c'est qu'on se surprenne. Je m'explique par quelques exemples. Remontons un peu le temps. Souvenez-vous quand Macron a été fêté sa victoire du premier tour des présidentielles à la Rotonde, resto chic et Obama onéreux de la capitale. Bim ! Polémique, commentaires, surprises, hey ! Mais pourquoi ? Que fait-il ? Oh, que c'est surprenant comme choix. Surprenant ? Non, mais qui a cru que Emmanuel venait du monde des petits ou des modestes ? Qui a pensé qu'il allait fluncher pour sa victoire ou faire un barbecue salade de riz dans un jardin public ? Allô ? On parle du mec qui certes n'a que peu de patrimoine dans sa déclaration, bien que ayant été notamment banquier d'affaires chez Rothschild, mais qui l'explique par son mode de vie et son niveau de vie durant toutes ces années, qui a eu pour conséquence de ne pas pouvoir thésauriser. Il l'a dit lui-même. Il claque, le mec. Donc, c'est pas à Flunch, ni même à la boucherie bio du coin qu'il a claqué toute sa fortune. Donc non, aller à la Rotonde avec ses potes, ce n'est pas surprenant. Alors je ne vois qu'une seule explication à cette surprise générale, c'est que des millions de personnes, journalistes compris, écoutent mes pauvres chroniques. Et comme j'ai eu pour habitude d'appeler Emmanuel « Manouche », ils ont vraiment cru qu'il était nomade, gitan, et passait son temps libre à griller des steaks, en jouant de la guitare au coin d'un feu sur une aire de gens du voyage. Dans ce contexte, ok, la Rotonde, ça surprend. Comme dirait Eric et Ramzy, nous ne voyons pas d'autre explication. Autre exemple. Que quoi ? Emmanuel a nommé un premier ministre les Républicains. Et il fait la part belle à la droite républicaine dans son équipe gouvernementale. Mais quelle surprise ! La droite quand même ! Non, mais pourquoi fait-il cela ? Nous sommes surpris. Même pas un marcheur né en premier ministre. Non, un droiteux de la droite classique. Lui qui avait dit qu'il était aussi et surtout un homme de gauche. Et qui avait dit qu'il allait construire un gouvernement anti-système, qui allait faire bouger les lignes. Oh, mais je n'en reviens pas. Ouais. Donc vous avez vraiment cru que ses sensibilités de gauche étaient déterminées et allaient marquer la construction de son projet ? Au moins à égalité en tout cas avec ses idées libérales. Alors déjà, encore, faire de la politique à égalité de gauche et de droite, solidaire et libérale, comment faut-il le dire ? Ce n'est pas possible. Pour continuer... Non mais Sandek, vous avez cru que Manu le Manouche, il allait prendre qui à ses côtés de pas de droite ? Même Manu la valseuse, il a été jugé trop à gauche pour le prendre à la randonnée. Et oui, Manu le Manouche est de droite, d'une droite classique. Oui, il est simplement capitaliste. Et non, rien de nouveau sous le soleil à part la publicité qui vous fait croire à de nouveaux produits, mais le lait à l'intérieur de la bouteille de lait, papa, c'est le même, parce que la vache qui le produit, c'est la même aussi. Alors on continue, allez, allez, encore un tout petit tour. Horreur ! Mais il a nommé un gars qui a voté contre le mariage pour tous, qui a refusé de célébrer des mariages homo et tenu des propos homophobes alors qu'il voulait purifier moralement l'exercice politique. Et quoi ? Il n'a pas la parité dans ses rangs, lui qui avait même promis qu'il voyait bien une femme à la plus haute fonction de Matignon. Quoi ? Il nomme des hommes qui en plus ont voté contre l'égalité salariale. Non mais quelle surprise ! Vous savez les gens, comme dit l'autre... C'est pas parce qu'on a voté Manouche au deuxième tour, comme moi, et je l'assume. L'avantage de ce studio, c'est que je connais les gens dedans, et normalement, en disant cela, je devrais pas trop me ramasser de cailloux sur la gueule. Donc, je l'assume et je reprends. C'est pas parce qu'on a mis ce foutu bulletin de vote nauséeux dans l'urne du deuxième tour qu'on doit ensuite se surprendre de la marchandise livrée. On peut très bien avoir acheté de la merde, parce qu'on n'avait pas ce jour les moyens, là, de mieux, mais en achetant pas non plus la pire des merdes. Sans pour autant, quand on déballe le colis, s'exclamer avec surprise « Quoi ? Mais c'est de la merde !» Non, non, on a le droit d'avoir acheté en pleine conscience et faute de mieux de la merde, et de déballer le colis en rageant d'utiliser ce produit de merde, en attendant d'avoir les moyens de se procurer mieux. Je voudrais finir sur Gérard Collomb. Parce que là, de manière surprenante, personne n'est surpris, alors qu'il y aurait peut-être de quoi. Pour un gouvernement qui se veut avoir entendu le ras-le-bol des Français contre leurs représentants politiques arrogants et plus intéressés par leurs intérêts et leur carrière que par leurs fonctions au service de l'intérêt général, Gérard Collomb, c'est mignon. Gérard Collomb, on en avait déjà parlé sur cette antenne, c'est lui qui avait hurlé à la mort contre sa sanction pour absentéisme au Sénat. Celle-ci l'obligeant à vivre avec seulement 4000 euros par mois, un vrai cauchemar, avait-il dit. Un cauchemar pour lui et sa famille. Bon, mais là, au moins, il va pouvoir mettre un peu de beurre dans le caviar. C'est lui aussi qui s'assumait défenseur du cumul des mandats. Il en aura en plus quelques copains, puisque par exemple, il va pouvoir discuter avec son pote Le Drian. C'est lui qui dénonçait les nouvelles règles du Sénat, qui obligent désormais les sénateurs, pour pouvoir percevoir leur indemnité dans sa totalité, à assister à un certain nombre de travaux. C'est enfin lui qui déplorait la part bénévole de son travail au sein de ses nombreux mandats. Eh ben Kiki, t'en as pas peur du bénévolat à la capitale, là ? On est vraiment au cœur d'un grand défenseur du renouveau de l'activité de la moralité politique. Bref, on se croirait quand même dans tout ça à un bon vieux cliché du Noël chez Tata Paul, qui chaque année nous offre un cadeau pourri pour les fêtes, et face à qui chaque année on s'exclame « Oh, Tata Paul, quelle surprise de ce cadeau ! C'est original, je ne m'y attendais pas. » Voilà, c'est un gouvernement et des commentaires made in Tata Paul. Vivement le prochain Noël.
Merci Katia. On dit merci Katia les garçons.
Merci Katia.
Et on commençait déjà un peu chauffé derrière les micros en parlant. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas discuté de Macron, mais c'est peut-être un petit peu tard pour faire le débat. Fallait-il voter Macron ou pas?
Guillaume, c'est pas la question. Fallait-il voter Macron? Le secret du vote, c'est le secret du vote.
Oui.
C'est pour quelqu'un de gauche appelé à voter Macron. Ça, c'est grave.
Non. Ça dépend qui t'as en face.
Ça, c'est grave. Ça.
Non.
C'est trop grave. C'est trop grave, Guillaume. Non, mais vraiment.
On peut pas faire l'hypocrite en disant.
Tu peux pas, à 4 semaines des législatives, tout le monde a chié sur Mélenchon, une pluie de merde sur Mélenchon, quand le soir, il a pas franchement appelé à voter Macron. Déjà, deux raisons stratégiques de communication. C'était que ça lui permettait d'avoir 15 jours de communication.
Je comprends.
Plus.
Mais j'ai pas craché sur Mélenchon.
Laisse-moi aller au bout. Ça lui permettait d'avoir 15 jours de communication de plus, et ça lui permettait en plus de se démarquer du Parti Socialiste et des bénis oui-oui. Qui vont voter avec les libéraux la main sur le cœur. Ça lui permettait de se démarquer.
Oui.
Ensuite, quand tu es quelqu'un qui milite toute l'année.
N'hésitez pas à couper en main, les gars.
Quand tu es un simple, je viens de commencer. Ouais,
c'est déjà long, moi je trouve.
Ah ouais, ta chronique, je l'ai trouvé un peu long, j'ai rien.
Non, allez, vas-y, fini.
Quand tu es un simple sympathisant de gauche, dire et appeler à voter les gens Macron, c'est pas grave. Quand tu es militant toute l'année, que tu as en tête la stratégie politique, la stratégie de communication, que ça fait 3 mois que tu travailles pour la campagne des Insoumis, qu'au bout de 3 mois, tu as été voir des gens pour leur expliquer le programme des Insoumis, ensuite appeler à voter Macron, t'es pas obligé, il suffit de ne rien faire. On n'était pas comme en Pays-Bas, où c'était 48-52, où c'était serré, où là, il fallait du monde, où il fallait mobiliser. Là, tout le monde savait, si elle avait fait 40, ça aurait été le plus beau score qu'elle espérait, 40. Si elle avait pas chié son débat, elle aurait peut-être fait 36-37. Oui. Mais je veux dire, on savait qu'on était loin du compte. Et on se décrédibilise. Il n'y a pas les législatives derrière, c'est pas un souci. Mais alors, tu vas voir des gens pour un programme, ensuite t'expliques qu'il faut voter Macron, et ensuite ces législatives, tu reprends le tablier de combat pour le programme.
Il y en a assez
des chiens de garde libéraux.
Lucas veut dire quelque chose.
Mais même plus que ça, pour avoir suivi un peu la campagne de Mélenchon, il a passé tous ses meetings à répéter, mais vraiment à chaque meeting, voter pour le moins pire, c'est toujours voter pour le pire. Comment tu veux que dès la veille du premier tour, il se contredise directement, surtout si t'as une campagne avec 80% d'adhésion au niveau du vote pour Mélenchon, c'est-à-dire que les gens ont suivi et ont adhéré à son propos, quoi. Là, il se fourvoie complètement si jamais il appelle à voter.
Oui, c'est le propos, c'est clair, quoi.
Vraiment.
Edgar, ton avis?
Oui, mais le pas une voix pour le Front National était assez clair.
Je suis d'accord, du point de vue de Mélenchon,
c'est intéressant aussi de... Peut-être que l'abstention et le vote blanc battent aussi le Front National, se retrouvent juste derrière Macron, avec le score Macron le plus faible, et pour montrer et casser le divin...
Après,
comment on dit, le Front Républicain.
Ouais.
Voilà.
Vous vouliez casser le Front Républicain.
Oui, moi je pense que
casser c'était pas quelque chose d'immuable et que voilà, qu'il y avait des gens qui étaient...
D'autant plus qu'il y aurait eu Mélenchon-Macron, on aurait assisté à la même morale. C'est-à-dire que là, on a réussi à mobiliser des gens contre le Front National, pas sur leur programme, pas en combattant leur programme qui était complètement irrationnel parce que basé sur des contradictions économiques, d'un côté des libéraux, d'un côté des gens qui sont beaucoup plus étatistes. Et en se plaçant sur le plan de la morale, ça veut dire que dans 5 ans, si on a Macron, Mélenchon au second tour, qu'est-ce qu'ils vont faire à tous? Ils vont nous faire exactement la même. C'est-à-dire que Mélenchon sera repeint en bolcheviste et tu participes à hurler avec les loups quand tu fais de la morale et pas de l'argumentation et pas de défendre un projet.
Alors, il faut faire juste deux trucs.
La morale, en plus, moi je suis avec des ouvriers toute l'année, ils en ont marre. Ça marche pas. Quand tu fais de la morale avec les ouvriers,
oui, je suis d'accord,
quand tu leur expliques que c'est pas bien parce que c'est comme ça, c'est pas bien, c'est du fascisme. Oui. Attends, le fascisme, c'était à 70 ans.
Ça contribue.
Les gens, ça leur touche plus. Il faut expliquer ce que c'est que le Front National historiquement, je suis d'accord.
Voilà.
À chaque fois que le nationalisme est passé, ils se sont alliés avec les libéraux, ils ont un discours social pour s'allier au pouvoir et ensuite, pour pouvoir se maintenir au pouvoir, ils ont besoin que les libéraux et les capitalistes les aident. Ça, on peut l'expliquer. Mais c'est pas sur la morale. La morale, ça ne marche pas.
C'est pas une question de morale, c'est une question aussi de sécurité publique. Et puis, c'est pas un peu hypocrite de dire, si, bon, ok, on est antifasciste, les gars, ok. Mais allez, vous, allez-y, allez voter. Moi,
je suis pas antifasciste, moi, je suis antilibéral. Moi, le fascisme, je l'ai pas connu.
Oh, le con, putain. Le con. Il nous ferait 2 heures pour
c'est semblable, quand même, le libéralisme et le.
Désolé, les auditeurs, là.
Mais le fascisme, il sera pas au pouvoir demain, le fascisme. Le libéralisme, il y a depuis 40 ans.
Non, c'est pas ça. Justement, tiens, ce sera l'objet de ma prochaine chronique.
Il fait le lien, le libéralisme fait le lien.
Les deux sont pas compatibles, oui.
Après, il faudrait, maintenant que, bon, tout ça, la fièvre est un peu retombée, il faudrait, c'est pas à nous de la rallumer, bien sûr, mais il faudrait, je pense surtout à la France Insoumise et tous ceux qui, comme Romain, sont restés purs, faire la différence entre ceux qui ont voté Macron et ceux qui soutiennent Macron. Parce que ce que je vois dans les réseaux sociaux, c'est ben vous êtes content, hein, vous qui avez voté Macron. Et ça, je le sens pendant 5 ans. Non. Vous avez voté Macron. Non, attention. Il y a ceux qui ont soutenu Macron.
J'ai pas critiqué le vote, j'ai critiqué l'appel pour des gens militants.
Il y a ceux
gauche.
Qui soutiennent. Les macronistes, il y a ceux comme moi qui ont voté Macron, mais que j'en ai rien à branler de Macron. Je battais l'autre truie et puis c'était tout. Et c'est marre, voilà. Oui. Moi, c'était un appel. C'était une journée dans l'année de ma vie politique, de mon organisation, de mon militantisme annuel. J'ai voté. Voilà, c'était le dimanche, je sais plus quand.
C'est
déjà.
Pas grave. Le
et voilà.
J'aurais été voté.
Il faut imaginer que participer au soi-disant Front Républicain, participer au sabotage de l'élection présidentielle depuis longtemps.
Mais oui, mais les présidentielles sont aussi pourries comme système. Il faut
avec la présence d'une Le Pen au second tour qui sert vraiment à rien.
Quel est le con qui a pas été
à saboter une élection, quoi.
Romain, bien sûr.
Quand la morale ne marchera plus, ça va.
Non, mais oui, on est d'accord sur ça, la morale.
C'est basé sur une argumentation comme ça depuis les années 90, quoi, sur une argumentation morale face au Front National. On voit le résultat qu'il y a eu. Pour l'appel au vote au second tour, moi je suis un peu mitigé. Je trouve que les deux positions sont complémentaires, en fait, quelque part. Ouais. Parce que, bon, je suis d'accord, appeler à voter Macron, enfin, on a vu ce que ça a donné avec Chirac en 2002. Où on a un Chirac à 80% et qui sort de là, limite, j'ai les pleins pouvoirs, je fais 50, enfin, je sais plus combien il fait aux législatives derrière, mais roue libre, on est parti pour 10 ans de droite décomplexée à fond les ballons avec un Sarkozy derrière et tout. Moi, personnellement, j'avais extrêmement peur de ça aussi quand même, hein, parce que je suis pas sûr que c'était le meilleur moyen de lutter contre le Front National.
Complètement.
Et du coup, j'essayais de trouver quand même une position un peu intermédiaire. Je voulais pas retomber là-dedans parce que même j'ai vu mes parents voter Chirac et s'en mordre les doigts après pendant 10 ans.
Les reculs sociaux énormes.
Mais c'est qu'un vote.
Oui, c'est qu'un vote.
Oui, mais après, quand tout est détruit, faut reconstruire.
Faut l'assumer aussi.
Quoi. Tout se détruit de toute façon.
Et puis le signal politique aussi, Marine Le Pen aurait fait 40-42%. C'est triste à dire, parce que mais peut-être que Juncker, Merkel, ça les aurait un peu détendus de l'austérité, quoi.
Bon,
il y a moins.
Le temps passe. Et bien en plus, alors je vais pas couper la parole, Romain. Je vais te la donner. On passe un petit jingle et après c'est ta chronique. Voilà. Alors Romain, tout à l'heure tu nous disais je pars pisser, j'écris une chronique, hein. Donc tu l'as faite d'un jet, c'est ça, et tu voulais nous parler de la différence entre mouvement et parti. C'est hyper intéressant, voilà. Ça dis donc, voilà. Tu as 5 minutes.
C'est con que j'ai pas travaillé le sujet.
Alors, oui, voilà. Contrairement, on a l'habitude, tu sais.
Contrairement à Katia qui enregistre des chroniques d'avance, moi j'en ai toujours une de retard.
C'est-à-dire oui, c'est ça, oui, c'est bien ça, oui.
J'ai fait mes chroniques et après je me dis putain c'est con, si je l'avais bossé j'aurais pu.
C'est le chroniqueur conceptuel.
Voilà, c'est ça.
Ça se trouve j'aurais pensé autrement.
Oui, je l'aurais pensé autrement. Non, oui. Je voulais juste c'est pas tellement une chronique, c'est plus sur la différence entre mouvement et un parti.
Oui.
Donc, pour moi, la force, la différence, en gros, entre un parti, c'est qu'un parti, il est là pour vertébrer ses adhérents.
Ouais.
Quelqu'un peut arriver dans il est, souvent dans les partis, on a quand même une idéologie, pas forcément une idéologie, mais des valeurs, qui sont plus fortes, une ligne, des logiques qu'il faut comprendre, sinon, c'est difficile d'avoir la logique globale de son idée. Mmh. Tandis que les mouvements, c'est plutôt l'inverse, j'ai l'impression, c'est plutôt les adhérents qui, en venant, font évoluer le programme. Le parti vertèbre ses adhérents, les adhérents vertèbrent le mouvement. Par exemple, Mélenchon sur sa plateforme, Macron, pareil, a voulu essayer de faire participer les gens et compagnie. Donc après, que ce soit de la communication ou que ce soit réel, on est quand même en train de vivre une sorte de mutation politique. Mmh. Avec l'individuation toujours plus grande, les gens ne peuvent plus adhérer à une idéologie à 100%, à un programme idéologique à 100%. Et quand même, je pense que ça va avoir de grosses répercussions avec la multiplication des mouvements. C'est-à-dire que le bordel qu'on connaissait à gauche depuis 150 ans, avec des fractions qui de temps en temps arrivent à se rassembler, j'ai l'impression que pour tout le spectre politique, ça risque de devenir ça, quoi. Des espèces de mouvements qui vont arriver petit à petit, des fois à se rassembler, des fois à ne pas se rassembler. Sur ça, je pense qu'il va y avoir des... Si on arrive demain, dans 30 ans, à un monde où il n'y a plus que des mouvements, pour moi, ce serait plus ou moins pas dramatique, mais on perdrait quelque chose. Parce que l'avantage des partis, c'est de garder une certaine cohérence. C'est ça, être vertébré, c'est justement ne pas avoir certaines de ces idées qui rentrent en contradiction avec d'autres. Mmh. Donc, c'est-à-dire que c'est l'inconvénient, la faiblesse des mouvements, qui va être d'avoir des gens qui sont tellement divers, qui vont faire des propositions qui sont même contradictoires. Donc c'est là où je me demande si la mutation politique qui est en cours ne va pas être largement gagnante pour justement les libéraux. Je veux dire, les libéraux vont profiter énormément de ça. Je veux dire, vous aurez d'un côté les gens qui défendent tel sujet, tel sujet, tel sujet. Les libéraux, ils ont une cohérence qui est moins importante, elle est plus simple. C'est juste la finance, c'est juste l'intérêt personnel, l'intérêt collectif se résume aux intérêts des individus, chacun fait de son mieux et puis tout ira bien. Enfin, je vous la fais courte, c'est un peu plus complexe que ça. La concurrence favorise les développements, c'est mieux pour tout. Mais j'ai peur que du coup, on prenne plus cher. La droite très droitière, souverainiste, va prendre cher, et nous aussi, je pense.
Ouais, c'est bien, voilà. Tu te rattrapes, c'est bien, j'approuve,
Voilà.
Ah ben là, je sais plus quoi dire, là, du coup.
Complètement.
Très bien, ouais, moi, je suis plutôt partisan de la forme parti, effectivement. Parce que les mouvements se font sur une personne. T'as la France Insoumise, c'est Mélenchon, En Marche, c'est Macron, etc. Quand ces personnes-là ne sont plus là, les mouvements disparaissent, un parti, il reste. Et justement, quand t'as une bonne démocratie interne dans un parti, l'élection au sein du parti qui est importante pour l'orientation de ce parti, et le parti continue, avec des excès, bien sûr. On va reparler du Parti communiste, qui maintenant est un vieux dinosaure, momifié, qui sert plus à rien, et les gens se battent pour faire vivre ce parti-là, c'est vrai que ça sert plus à grand chose, effectivement. Les partis ont une naissance et une... Ouais, c'est ça, ouais. Et les partis ont une naissance aussi et une mort qu'il faut savoir faire, voilà. Mais je pense que c'est plus sérieux, justement, pour politiser les gens, c'est plus important d'avoir des partis. Les partis pourraient se transformer, justement, en école, en université de politisation.
Pour moi, c'est clairement le rôle du parti. C'est ce que savait faire le PC.
Oui,
c'est ce que savait faire le PC.
Et tout cas, sur la démocratie allemande au 19e siècle.
C'est ce qu'a su faire Mélenchon aussi.
Le PC peut-être aujourd'hui obsolète par rapport à la société, nos modes de vie individualistes.
Et puis tu formes des cadres qui pourront gérer aussi autre chose.
Les gens qui ont avec le mode de vie qu'on a aujourd'hui, en étant des individus vraiment individués au sens
individu,
Et ben, je veux dire, les gens supportent plus, c'est logique.
Mais après, moi, je voulais revenir aussi. Enfin, quand tu dis qu'un mouvement, ça dépend. Le programme est défini uniquement par les gens de la base. Si je me souviens bien, Mélenchon, les mecs ont choisi, enfin, j'étais pas adhérent à France Insoumise, mais ils ont choisi, parmi des propositions, des lois qu'on leur proposait. Donc il y avait déjà un premier filtre de propositions, quoi. Qui donnait un axe. C'est pas ouvert à tout le monde, et puis chacun y met sa graine, et puis tu peux avoir tout n'importe quoi. Il y avait quand même un axe défini, plus ou moins.
Oui, pour l'instant, dans les
après,
deux mois.
En Marche, j'ai pas suivi trop comment ça a été fait. Il me semble que c'est un peu plus vertical.
Oui, c'est un peu plus vertical,
Mais, après.
Vous avez fait un questionnaire, soi-disant, qu'est-ce qui intéresse, enfin, un espèce de truc de marketing.
Oui, quoi, les marcheurs étaient censés aller récupérer les volontés des machettes.
Mais tout le monde le fait, ça, c'est pipo.
Le truc qui a été intéressant dans la France Insoumise, c'est le Discord Insoumis qui avait été intéressant, qui fonctionnait de manière complètement autonome, avec juste un canal de discussion où les gens balançaient des idées. Enfin, de ce que j'en ai compris, après j'ai pas été voir
C'est le maillage du territoire qui fait la différence aussi avec ce qu'ils ont fait les insoumis, c'est d'avoir de permettre à ce que quatre personnes qui sont au fin fond d'un village créent un comité local et de suite agissent quoi.
Tu peux faire ça avec un parti aussi.
Ah, ça paraît difficile de créer une fédération. Si t'expliques au PS que tu crées ta petite fédé,
je connais les partis,
c'est quand même très structuré. Ah oui, non mais oui, des partis qu'on a connus un peu bordéliques, tu veux dire.
Très bien. Très bien, on passe on fait encore un petit jingle et puis on continue, c'est cool, voilà, ça marche bien.
Les roquets rouges, ils crient, ils mordent et ils s'enfuient. Du rock et du rouge.
Voilà, tout le monde, ça va, les garçons, vous avez ce qu'il fallait, vous êtes resservis en bière, tout
ça.
Voilà,
on est bien.
Parfait. Bon.
Je fais chaud.
Et tout le monde se casse. Bon. Alors, je vais vous conseiller
c'est moite,
Vous avez pas une blague de cul, là? Je sais pas, Romain et Tristan se sont barrés, là. on va pas les attendre, les auditeurs sont là, quoi. Merde, bon. Allez, on va commencer tout seul sans eux. Alors, je vais vous conseiller, les garçons, une série américaine. Il s'agit de, c'est une toute nouvelle série qui vient d'arriver, c'est The Handmaid's Tale. Les contes de la servante. Vous connaissez?
Pas du tout.
Très bien. Alors, le titre pourrait faire croire à une histoire coquine et érotique dans un boudoir du 18e siècle, mais ce n'est pas du tout, mais alors pas du tout ça. Il s'agit d'une dystopie, c'est-à-dire l'inverse d'une utopie. Un univers où on ne voudrait surtout pas vivre. Dans un futur proche, les États-Unis ont basculé dans une dictature religieuse intégriste protestante. Ça va de soi. Et la principale caractéristique est que les femmes n'ont plus aucun droit. Ce sont des meubles, vraiment. Elles n'ont plus le droit de travailler, elles n'ont plus le droit de posséder un compte en banque, elles n'ont plus le droit de participer aux décisions politiques ou économiques, elles n'ont plus le droit de lire, plus rien, vraiment. Alors, en haut de l'échelle sociale, il y a les femmes de bourgeois qui s'en sortent un petit peu, elles sont là pour faire joli. Mais tout en bas de l'hiérarchie, il y a les servantes, justement, qui sont là juste pour servir de reproductrices. Ce sont vraiment des utérus sur pattes. Alors, on suit les péripéties d'une de ces servantes, June, qui se fait donc légalement violer régulièrement par son maître en vue de lui donner un héritier. Mais avant chaque viol, il doit quand même réciter une prière. Hein, voilà. Bon. Alors,
le minimum.
Oui.
La morale, comme quoi.
Vous aurez compris.
Ils ont le sens moral. Voilà.
Vous aurez compris, c'est une série qui a la légèreté d'un radiateur en fonte. Un épisode de 50 minutes, ça vous plombe la soirée. Mais c'est hyper intéressant et on veut connaître la suite parce que on a une histoire qui se déroule dans le présent de cet univers, mais on a aussi des flashbacks qui nous montrent comment on en est arrivé là. Et ces flashbacks sont commentés par June, donc la servante. Alors les auteurs de la série s'inspirent à mon avis d'une stratégie politique qui existe vraiment, qui est la stratégie du choc, conceptualisée par l'économiste américain Milton Friedman. En gros, si vous voulez imposer des réformes impopulaires, il faut mettre le peuple en état de choc pour l'anesthésier. Vous profitez d'un attentat, d'une catastrophe naturelle, d'une guerre, pour balancer toutes vos saloperies sans qu'il puisse y avoir de révolte. C'est ce qui s'est passé par exemple au Chili en 1973, il y a un coup d'état militaire avec le général Pinochet. Tous les Chiliens sont tétanisés par la violence du régime et toute l'économie va être privatisée. Et si je donne l'exemple du Chili, c'est parce que Milton Friedman a été conseiller économique de Pinochet. On peut aussi citer la chute du mur de Berlin, les habitants des pays de l'Est ne savaient plus où ils habitaient, blam, toute leur économie a été pillée par les groupes capitalistes. On peut aussi citer l'incendie du Reichstag qui permet aux nazis de mettre en place leur système totalitaire. Alors dans la série The Handmaid's Tale, les Américains se sont tout pris dans la gueule. Attentats terroristes, crise climatique et chute spectaculaire de la fertilité. Et au fur et à mesure de la série, on découvre comment s'est instauré ce régime de talibans chrétiens. Et ça a commencé par quoi, à votre avis?
Donald Trump.
Non. Par la mise en place d'un état d'urgence. Eh oui. Ah. Et tout le monde était, ou presque, trouvait ça normal au début. Et quand l'état se met à pendre les homosexuels, les médecins, les intellectuels et les prêtres catholiques qui sont des mécréants, bien sûr, chez les protestants, eh ben, il est trop tard.
Alors c'est une série vraiment très intelligente parce que la société qu'on voit existe déjà de nos jours, mais dans des pays lointains et différents comme l'Arabie Saoudite ou les États du Golfe. Mais là, l'histoire se passe dans un pays occidental, donc on s'identifie beaucoup plus facilement aux personnages et c'est très perturbant, c'est très dérangeant et c'est fait pour. Alors paradoxalement, moi ça me rend optimiste parce que c'est une série qui vient des États-Unis, donc il y a encore beaucoup de gens là-bas qui ont cette capacité d'analyse vraiment pointue. Et j'espère que cette série va avoir du succès pour nous faire réagir, pour nous pousser à défendre nos libertés coûte que coûte, car rien n'est jamais acquis. Ici en France, on a une réaction conservatrice qui est pour le moment encore un petit peu contenue, avec Macron, tout, je mets beaucoup de guillemets là-dessous, hein. Mais vous avez non seulement le Front National, mais vous avez aussi des mouvements comme Civitas ou Sens Commun qui contaminent toute la droite et même au-delà. Et en face, on insiste encore à des querelles de merde. Et Mélenchon, il a dit du mal de nous. Et non, d'abord, c'est vous qui avez arraché nos affiches. Non, c'est vous qui avez commencé. Bande de bouffons, arrêtez vos conneries et regardez cette série, ça devrait vous calmer. Voilà. Donc c'est The Handmaid's Tale. Les contes de la servante. Je vous recommande chaudement de regarder cette série. Il y a la première saison qui est en train de se... Il y a 9 ou 10 épisodes qui sont sortis pour l'instant. Un épisode par soir, pas plus, les enfants. Sinon, vous vous scarifiez les bras. Hein. C'est... vous avez l'impression, après, d'avoir pris, je sais pas, une choucroute à l'ego. C'est lourd, c'est bourreau. Vous êtes là, vous bougez sur votre canapé, vous êtes tétanisé. Mais c'est vraiment une putain de série qui vous fout des coups de poing dans la gueule. C'est comme un manège qui vous fout la tête à l'envers. Hein. C'est divertissant, mais c'est aussi, ça vous fout hyper mal. Mais c'est vraiment putain de bonne série. Quoi.
The Wire que tu m'as conseillé.
J'en parlais, ouais, t'as commencé à regarder.
Je t'ai grillé, ouais, on a commencé à regarder les 5 premières.
Connaissez The Wire, ouais.
De nom, ouais, j'ai pas regardé.
Regardez The Wire aussi, là. Vraiment pas mal. Il y a 5 saisons, c'est une série des années 2000. Vraiment une série sociologique. Voilà. Sur une ville la ville de Baltimore aux États-Unis.
Ouais, intelligente et bien tournée, en plus bien scénarisée.
Ouais, très très bien, voilà. Donc dans Handmaid's Tale, il y a aussi une super BO, pop rock. Là, je vais vous passer une des musiques. Alors dans la série, c'est une version hyper cafard, hyper triste. Hein. Je vais pas vous l'imposer. On va prendre la version disco de Blondie, Hair of Glass. Yeah, si on continue en disco.
Ouais, soirée disco.
Yeah, allez, vas-y, tu danses, bouge. Thank you.
Et on est à l'antenne, voilà.
Ah ouais. Oui, donc tu as planté des choux, c'est génial.
Voilà, voilà, donc de dernière partie de l'émission. Là, les sujets ont été, les chroniques ont été épuisées. Donc, bah, on va faire parler un peu nos invités. Moi, j'avais noté quelques sujets d'actualité. Alors, on était pendant la musique, on parlait des USA qui quittaient l'accord de Paris. Hein. Qu'est-ce que ça vous, donc vous en foutez?
Ça va nous faire chaud pour l'instant, ni chaud ni froid.
Moi, en fait, ce qui m'emmerde le plus, c'est que j'ai l'impression que ça permet à Macron et tout de se donner une image de sauveur de la planète, qui tente de prendre le leadership de la lutte contre le réchauffement climatique, alors que concrètement, il fait rien pour.
Et quand on a fait des bus à la place des trains, c'est pas hyper écolo.
Voilà, par exemple, quoi. Quand on ratifie le CETA 6 mois après la COP21, je vois pas l'intérêt de faire une COP21, quoi, parce que quand tu veux maximiser les échanges de deux côtés de l'Atlantique, comment tu veux faire sans utiliser d'énergie fossile? Enfin bon, bref, c'est une vaste blague.
Et ce qu'on disait, c'est finalement dans l'accord de Paris, il y avait rien de contraignant déjà. Bon, et c'est ce qu'on sont en train de dire tous les éditorialistes. Mais en fait, vous inquiétez pas, sinon c'est pas, on va s'en sortir sans les États-Unis.
Peut-être.
I hope so. voilà, bon, Inch'Allah, on verra, Mais bon, voilà.
En fait, lui, il a besoin de faire repartir le charbon chez lui. C'est vraiment pour ses élections. C'est vraiment pour des raisons politique, quoi.
Mais lui, il l'avait promis de toute manière, donc lui, au moins, il tient ses promesses, tu vois. Ouais, quelque
part. Bon, après, pas toutes, parce qu'il avait promis de désarmer aussi, et là, par contre, il a laissé le champ libre à ses généraux, un truc puissance 1000. Tout le monde s'attendait, une des choses qui ont fait beaucoup de gens voter pour lui aussi, c'était que l'Amérique arrête de faire le gendarme du monde, arrêter de...
Oui, non, mais oui.
Il y avait
mais
cet aspect-là, pour certains. Et c'est vrai que là, il a...
Mais c'était pareil avec Obama. C'était pareil avec Obama.
Mais apparemment, lui, Obama comprenait la géopolitique, lui, il la comprend pas du tout. Apparemment, et il débarque, il a dit beaucoup de choses pendant sa campagne qu'il est obligé de revenir en arrière, et maintenant finalement, vu qu'il comprend rien et qu'il le sait, apparemment, il laisse, enfin, c'est dans le monde diplo du mois de mai, où il y a un très bon papier où ils expliquent à quel point il laisse ses généraux en roue libre par incompétence, et parce que les généraux ont une petite tendance à bien aimer aller faire la guerre, c'est fou, hein, et du coup, ça risque de défourailler sec. Clinton avait engagé 30 conflits armés, on verra s'il bat le record.
De toute manière, est-ce qu'ils avaient vraiment... Enfin, là, on dérive de la COP21, mais...
Vas-y.
Au niveau militaire, enfin, est-ce qu'ils avaient vraiment le choix, quoi? S'ils avaient voté pour Hillary Clinton, est-ce qu'il y aurait une grande différence au niveau des engagements militaires?
Pareil.
Des fois, on dit que l'Empire fonctionne, quel que soit la personne à la tête, l'Empire continue à fonctionner en autonomie, quoi.
C'est ça.
Ouais, puis c'est le Congrès, en plus. Surtout en Amérique. En France, un changement de président peut changer des choses un peu balèzes, mais en Amérique, c'est vrai que, il y a qu'à voir, là. Il a rien pu faire de ce qu'il voulait faire, quasiment. C'est le Congrès.
De la COP21.
C'est le Congrès. Le Pentagone qui pilote beaucoup aux États-Unis. Ouais.
Après, beaucoup de gens parient sur le fait que Trump ne passera pas l'année. Il sera destitué. Apparemment, ça a l'air sérieux. Hein. Il y a des paris qui sont en cours et beaucoup de gens prédisent qu'il sera destitué avant la fin de l'année. Il est tellement incompétent, il a des casseroles, il travaille avec les Russes et ça plaît pas aux Américains, ça de bosser avec les Russes, quoi. Enfin, avec une puissance étrangère.
Apparemment, beaucoup de gens essaient de lancer, parce que c'est toujours pareil, la communication. C'est quand même ce qu'on veut atteindre, faut commencer par en parler et lancer l'idée, que les gens le reprennent. Mais apparemment, c'est très compliqué de le destituer. Par contre, les élections de mi-mandat, ils risquent d'être bloqués très vite. S'il perd le mi-mandat, voilà quoi, je veux dire, ça va être...
Ton micro, Romain. T'as pas l'habitude de venir souvent, hein, mais il faut parler dans le micro aussi.
Ouais, il risque d'être bloqué assez rapidement par contre.
Autre sujet, on va rester un peu sur les combats écologistes. Le clash Mélenchon-Cazeneuve sur l'affaire Rémi Fraisse, qui dit que Cazeneuve est responsable de l'assassinat de Rémi Fraisse. Alors Edgar, je sais que t'es un ancien combattant de Sivens.
Oui, hein. Oui, c'est ça.
Ton avis là-dessus, tiens.
Bon, mais que Cazeneuve se soit occupé de l'assassinat de Rémi Fraisse ou d'un homicide, ça paraît évident, parce que c'est lui qui était ministre à ce moment-là, donc c'est lui qui s'occupait de l'affaire. Donc juridiquement, il devrait pas trop y avoir de problème.
Est-ce qu'on peut parler d'assassinat? C'est ça que moi c'est le mot qui me gêne.
Après, ce qu'il y a, c'est qu'il aurait dû démissionner. C'est surtout que c'est Malik Oussekin, en 80, dans les années 80. Le précédent qu'il y avait eu, la jurisprudence dans le fonctionnement, c'est quand même que quand t'as tes flics qui dégomment un mec sur une façon, sur un tir tendu un peu maladroit. Plus que maladroit, mortel.
Voilà.
Je veux dire, normalement, le mec il démissionne. Ne serait-ce que pour une question de paix sociale, ça se fait quoi. Là, c'était moyen de pas être parti. Après, c'est vrai que.
C'est vrai que Cazeneuve, il avait une responsabilité dans l'usage de ces grenades là, déjà, qui avait rien à faire là. Et après, pour ce qui est de la police, lancer une grenade dans une zone non éclairée sans même avoir les jumelles thermiques parce qu'il les avait oubliées à l'autre bout du... c'était les copains qui les avaient oubliées, quoi, ça craint un peu. Donc l'homicide, ça paraît évident.
De toute manière, il y a quelqu'un qui est mort par définition.
Voilà.
Oui, mais bon. Après, Mélenchon, faut quand Mélenchon parle, faut toujours comprendre que c'est quand un politicien parle, il parle pas à 100% des Français. C'est pareil. C'est le soir du premier tour, des gens lui ont reproché de faire la gueule, alors que 19 personnes ne s'attendaient à ce qu'il monte à ce score. Tout le monde, les gens qui ne sont pas pro Mélenchon disaient mais c'est vous, il fait la gueule. Alors
moi j'étais hyper content. Hein, je vous avoue.
Mais moi aussi, ce qu'il y a, c'est que il faut bien comprendre que la parole d'un politique, il parle en premier à ses militants. Donc ses militants, ils se sont engagés, ils ont tout donné pendant 3 mois pour faire sa campagne. Le mec, il perd, même qu'il fasse 21, et qu'il aurait perdu, il aurait fait 8 millions de voix. Mais de toute façon, il va pas être content. Ça veut dire que si le mec, il dit « Ah, c'est super, on a fait 19, mais on n'a pas gagné », ça veut dire qu'il savait qu'il allait pas gagner avant et qu'il est content d'avoir déjà fait 19. Donc c'est pas que... Je suis sûr qu'intérieurement, il devait se dire « Putain, qu'elle a fait 19 », même qu'il y ait cru à la fin, il devait quand même pas être peu fier. Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux pas arriver en venant de prendre une tôle... Enfin, ayant perdu. Puis dire, c'est super.
Surtout avec le deuxième tour qui s'annonce. Quoi.
Surtout avec le soir même. Derrière.
Non, mais que le soir même, on t'annonce que t'auras président ou Macron ou Marine.
Voilà. Quoi. Ou le libéralisme.
Est-ce que tu
ou
peux être content à cette annonce-là? Moi non, personnellement. Ça a été un peu la soupe à la grimace, la soirée. Mais bon. Même si, oui, les 19%, trois mois plus tôt, on n'aurait jamais imaginé 19% pour Mélenchon. Ça semblait.
Moi, j'étais toujours habitué à faire des scores de 5%. Déjà, on faisait 5, moi. Quand j'étais au NPA, on faisait 5, mais on débouchait champagne, quoi. À 19, vous voyez.
Ça boit du champagne au NPA.
Ouais, mais c'était pas le même. C'est Besançon, c'était des restes, c'était la poste. Non, on a des vieux stocks.
Bon, on avait les frais de campagne remboursés, donc c'est passé comme ça, quoi.
Non, mais c'était pas le même objectif, quand même. C'est normal que là, ils pouvaient pas sauter au plafond. Ces cadres et ces militants auraient, ça leur aurait fait bizarre, les cadres proches et les militants vraiment investis. Ça aurait fait bizarre de voir un mec heureux alors qu'on vient de perdre. Ouais. Et en voyant, ayant le choix entre Le Pen et
c'est
Macron.
Une réaction humaine.
Ouais. Et politique aussi. Et politique.
Politique aussi.
Il n'y a pas de réaction humaine à ce niveau-là. À ce niveau-là, il n'y a pas de réaction humaine. C'est de la politique. C'est comme là, quand il communique, quand il prend Cazeneuve à partie, je veux dire, il fait de la politique. Même si lui, il sait très bien personnellement que Cazeneuve n'a rien à voir judiciairement, faut arrêter. C'est depuis Sarkozy qu'on n'arrête pas que les flics soient qu'on a tout permis en termes de flashball, de trucs. On leur a donné bien de jouer super, des tasers, des trucs. Effectivement, Cazeneuve aurait pu les enlever. Non, il l'a pas fait, mais c'est pas pour ça qu'il est meurtrier. C'est de la politique. Mais après, Mélenchon a raison de s'attaquer à un gouvernement qui a été toujours contre les manifestants, qui représente sa base, justement. La base de Hollande, sa base dure, ça devrait être la gauche. Et se faire cartonner par un mec qui est censé être de gauche, oui, ça pique.
Bon. Moi, je trouve que le mot assassinat était maladroit, parce qu'il y a des pays qui assassinent effectivement des gens.
Ça a marché. Il a fait parler
c'était
de
maladroit. Il
a pas fait parler de lui.
Il a rassuré sa base militante. Il a peut-être pas marqué des points dans les 100% d'électorat. C'est ce que je reproche souvent à la communication des gens qui sont vraiment de gauche. C'est de ne pas parler à 100% des Français, c'est de parler à 25% des militants qui feront le boulot.
Mais on prêche des convaincus. Moi, c'est un peu la critique que j'ai permanente envers la gauche en général. C'est qu'on a souvent tendance, je trouve, à prêcher des convaincus, quoi, à s'adresser qu'à des gens qui vont être d'accord avec nous. Après, c'est compliqué parce que oui, ça veut dire comment tu vas aller communiquer avec des libéraux, comment tu vas même... Il y a la question épineuse de l'extrême droite, qui, eux, arrivent à piquer des militants de la gauche, hein, mais la gauche s'interdit de faire l'inverse, quoi.
Oui.
Donc ça va être compliqué.
C'est bête, il y a 10% du FN qui devrait être chez nous.
Puis c'est pas une maladie incurable de voter Marine Le Pen.
Et quand on leur fait de la morale, on les maintient.
Il faut pas dire que c'est impossible de rassembler, parce que déjà faire 19% quand on voit de là où on part.
Oui.
C'est plutôt positif, et il suffit de dire qu'il faut continuer comme ça.
600 000 voix, c'est rien. Le NPA et Lutte Ouvrière n'étaient pas là, il était au second tour. 600 000 voix.
Le temps passe, on arrive à la fin de l'émission. J'aurais juste, on passe. Et oui, vous êtes déçus, mais vous reviendrez, les copains. Ah. Il reste deux émissions à la fin avant cette saison-là. Et justement, on sera diffusé le mardi 6 juin. Et je voudrais annoncer que le samedi 10 juin à Ramatier se tiendra une journée sur le thème des désobéissances civiles, justement. Donc on va, c'est le comité de soutien aux inculpés du dialogue social. vous vous rappelez l'histoire avec Victor qui avait été un intermittent qui avait été accusé d'avoir frappé deux CRS, un intermittent qui faisait 60 kilos tout mouillé, quoi, qui avait malmené deux CRS à Rodez ici pendant l'avenue de Hollande. Donc ce comité-là agit toujours, et là donc il y a une, à partir de midi donc au centre social Saint-Éloi, il y a des ateliers tout l'après-midi, et avec donc des, avec la CIMAD de PACA justement qui va nous parler de leur travail d'accueil des migrants, et avec les militants du BDS de Toulouse, donc c'est-à-dire les militants qui appellent au boycott des investissements sanctions, on en a souvent parlé au Roquet Rouge ici, pour boycotter Israël par rapport à leur politique qu'ils font dans les territoires palestiniens. Donc c'est samedi, ce samedi-là, à Ramadier, voilà, le 10 juin, voilà. D'accord. À partir de midi, vous êtes tous les bienvenus pour rencontrer des militants qui désobéissent. Il y a aussi les Foncheurs volontaires, la Confédération paysanne, voilà, il y a des syndicalistes, tout ça, et ça se terminera par un concert avec les Hot Dogs et Électrogène. Le soir, je pense qu'il y a à manger sur place. Voilà, ça peut passer un petit samedi sympa. Voilà. Bah moi, je suis hyper content de mes deux nouveaux roquets stagiaires. J'ai bien aimé ce que vous disiez. Voilà. Oui. Et ben on se quitte sur ça. Voilà. Revenez quand vous voulez, les copains.
Ah, merci. Et puis, avec plaisir.
Voilà. Et puis à bientôt. Hein, dans 15 jours pour les autres. Ciao.
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 Je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs.
Quand on tire, on raconte pas sa vie.
Alors qu'est-ce qui se passe ici?
Cessez d'intervenir incessamment, un peu comme le roquet.
This is a revolution sure shot.
Why I walk and talk this way?
There's a war going on outside.
Say what?
Les Roquets Rouges sur CFM.